Jacques Toubon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu une longue carrière politique. Vous avez été député, maire, ministre de la Culture et puis de la Justice dans les années 90. Vous avez présidé le Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et été le défenseur des droits de 2014 à 2020. Vous publiez un essai intitulé « Je dois vous dire ». Quel est ce message que vous ne pouviez pas garder pour vous ?
Je pense que les expériences que j'ai pu faire dans la fonction publique, mais surtout dans le monde politique, de nature très diverse, m'ont attaché à ce que on appelle d'un terme qui n'est pas du tout technique, qui devrait être connu par tout le monde, beaucoup attaché à l'état de droit, c'est-à-dire cet ensemble de principes avec lesquels nous vivons depuis historiquement 200 ans, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, les grands principes notamment qui ont été fixés par la Révolution française et qui sont contenus aujourd'hui en France dans notre Constitution, mais qui sont par exemple repris aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ce n'est pas une affaire franco-française. Et je me suis posé la question d'une évolution qui me paraît aujourd'hui dangereuse. J'ai une conviction qui est la supériorité de ces valeurs universelles fondées sur l'humanité, c'est-à-dire sur le fait que les 7 ou 8 milliards d'hommes et de femmes qui vivent sur la Terre sont tous pareils, tous égaux, et ont tous les mêmes droits et la même dignité, et que cette conviction, qui est une conviction permanente, que j'ai trimballée tout au long de mon existence et de mon action, et d'un contexte politique aujourd'hui, en France et partout ailleurs, qui, en quelque sorte, bouscule ces convictions, qui montre que, dans beaucoup de circonstances, alors, la lutte contre le terrorisme, il y a une légitimité. La lutte contre la pandémie, il y a une légitimité. Mais aussi, tout simplement, des régimes politiques qui se veulent autoritaires et qui veulent mettre en œuvre un certain nombre de mesures de manière autoritaire. On voit l'état de droit s'amenuiser, on voit les éléments non démocratiques, non libéraux se développer, et j'essaye donc dans ce livre d'expliquer d'une part cette évolution en Europe et ailleurs, et d'autre part de proposer un certain nombre de mesures, mais d'abord, parce que ce livre, c'est pour ça qu'il a ce titre, je dois vous dire, c'est une prise de conscience. Je pense que aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, ça veut dire depuis 20 ans, depuis l'affaire des tours jumelles, depuis que les Américains se sont rendus compte que même sur leur territoire, ils pouvaient être touchés. Et ils ont donc pris des mesures qui sont des mesures qui ont porté atteinte aux libertés fondamentales aux États-Unis en faveur de plus grande sécurité. Ça s'est appelé à l'époque le Patriot Act, et tout le monde dans le monde a copié le Patriot Act, plus ou moins. Et donc, je me suis dit qu'il fallait le dire, parce que ce qui me paraît la pire des choses, c'est qu'on aille peu à peu vers des systèmes non libéraux, vers des systèmes non démocratiques, vers des systèmes où l'identité prend le dessus sur l'humanité, dans l'indifférence. Et c'est ce qui est caractéristique même d'un pays comme la France. On voit beaucoup d'affrontements. Aujourd'hui, on l'a vu dans les derniers débats électoraux, on en verra encore pour les élections législatives. Mais ces affrontements me paraissent porter aujourd'hui souvent sur des questions purement politiciennes, et ils oublient le fond des choses, c'est-à-dire ce déclin de l'état de droit que je caractérise, et d'autre part, cette bataille d'une volonté identitaire qui cherche à supplanter le caractère universel des principes que, encore une fois, depuis 200 ans, ça ne donne pas d'aujourd'hui, nous appliquons dans un pays comme la France. C'est un sujet qui est à la fois d'actualité, parce que je vois l'avenir d'une certaine façon de manière pessimiste, et en même temps, c'est un sujet qui nous prend depuis que nous avons instauré, au début du XIXe siècle, les éléments de la démocratie dans un pays comme le nôtre.
Donc cette revendication identitaire que vous évoquez, c'est cela qui nous divise, et est-ce qu'on peut revenir en arrière?
Je pense que on peut sûrement revenir en arrière, et je fais appel dans mon livre à quelque chose qui peut paraître un terme un peu révolu. Je fais appel à la raison, parce que je pense que il y a dans beaucoup de ces positions, dans ceux qui défendent des communautés, dans ceux qui défendent des nationalités, dans ceux qui mènent la lutte des sexes, dans ceux ou des genres, dans ceux qui pensent qu'il faut exclure ceux qui ne sont pas pareils. Alors, bien entendu, ça concerne les étrangers, mais ça peut concerner, par exemple, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Dans tout ça, il faut que nous essayions de nous rendre compte que nous avons des idéologies, des propos qui sont en train de gagner du terrain. Et comment redresser les choses? La raison. Parce que la raison, elle nous dit que nous sommes tous frères ou sœurs, que nous sommes égaux. Que nous... Ce n'est pas...
Vous faites appel à la raison, mais vous le dites vous-même, les réseaux sociaux, l'anonymat, absolument, la violence de l'époque.
Et c'est pour ça que je propose un grand travail d'éducation dans des pays très développés comme le nôtre, mais un grand travail d'éducation partout. Je prends un exemple qui peut paraître éloigné. Quand on voit un pays comme le Brésil, l'influence que depuis des années et des années, les églises évangéliques, dans le Nord-Est d'abord, et puis maintenant dans l'ensemble du Brésil, ont pris. Comment elles fabriquent l'opinion, et comment, aujourd'hui, Bolsonaro s'appuie sur elles. Bon, elles ont créé dans l'esprit de millions et de millions et de dizaines de millions de Brésiliens, elles ont créé une vision absolument mythique qui fait que on demande à Dieu de résoudre les problèmes de l'économie ou de la société et que la révélation divine remplace l'idéologie politique, remplace les institutions. Eh bien, on est là dans quelque chose où l'absence de raison, l'absence de rationalité risque de conduire, en l'occurrence c'est le cas, à un certain nombre de mesures autoritaires, à un certain nombre de mesures de privation de liberté, car qu'on le veuille ou non, nos grands principes de liberté et d'égalité sont fondés sur une démarche qui a été celle qui a été faite au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et qui consiste à dire nous savons en raison, nous savons en objectivité, nous savons parce que c'est ça qui est l'humanité, que nos contemporains sont comme nous, que nous n'avons pas de supériorité, qu'ils n'ont pas d'infériorité, que, par exemple, les étrangers qui viennent chez nous, il ne faut pas les traiter comme s'il y avait eux et nous. Non, nous sommes tous nous.
Et vous le rappelez dans votre livre, entrer en France n'est pas un délit et s'installer en France ne relève pas d'emblée de la police.
Bien entendu, nous avons à la fois des textes internationaux, y compris européens, et nos lois qui font que la libre circulation est d'une certaine façon le principe du monde. C'est le principe légal. Si vous avez des papiers normaux, vous sortez de votre pays, vous allez dans un autre pays, vous pouvez... Alors après, il s'agit de savoir si on peut y travailler, on peut s'y installer, etc. Il y a toute une série de réglementations. Mais le fait de se déplacer dans le monde, et il y a aujourd'hui à peu près en permanence 2,5% de la population du monde qui bouge, qui se déplace. Et le plus souvent d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, ils se déplacent de pays du Sud à pays du Sud et pas de pays du Sud à pays du Nord. C'est-à-dire, c'est la négation du fameux grand remplacement. Bon. Donc, il y a 2,5 millions de personnes qui se déplacent. Et ce déplacement-là, il est d'ordre normal et d'ordre légal. À partir de là, il est clair que appréhender la migration d'abord comme une question de sécurité ou d'insécurité et faire travailler d'abord la police, c'est une erreur. C'est pour ça que personnellement, vous l'avez vu, je propose que toutes ces questions ne relèvent pas du ministère de l'Intérieur, mais relèvent d'une politique interministérielle parce que il y a des aspects qui relèvent de l'intérieur. C'est vrai que la police aux frontières ou certaines mesures de sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais il y a plein de mesures qui relèvent de questions sociales et tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne la protection sociale. C'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2008, c'est-à-dire une période encore très récente, jusqu'en 2008, c'était le ministère des Affaires sociales qui était principalement chargé de la question des étrangers, avec le ministère naturellement des Affaires étrangères, qui lui traite des relations entre les États à ce sujet. Donc, la complexité, c'est qu'il y a au moins trois ministères qui sont concernés, l'intérieur, les affaires étrangères et les affaires sociales. Et moi, je voudrais le retrouver dans une grande politique migratoire qui soit conduite au niveau de Matignon, c'est-à-dire chez le Premier ministre.
Vous évoquez ce que vous avez fait en tant que défenseur des droits pour défendre les libertés de manifester, pour que les migrants aient un minimum de droits, être nourris et soignés, ou pour que la fessée soit interdite par la loi. Oui. De quoi êtes-vous le plus fier ?
Probablement, c'est le fait d'avoir après des années et des années, permis un certain nombre de droits pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes puissent faire tout ce qu'elles ont à faire en tant qu'individus libres, égales, dignes, etc., sans avoir aucune autorisation, sans avoir aucune procédure particulière. Et que je pense que nous avons là, pour les femmes et pour les enfants aussi, car très souvent, les deux questions sont liées, parce que dans notre esprit, il y a quelque chose qui tient dans des droits des enfants, des droits des mères et de la maternité. Je pense que c'est ça que j'ai fait le plus évoluer à travers les droits des femmes et à travers les droits des enfants. Et encore récemment, en 2017 ou en 2018, des dispositions ont été prises dans ce sens qui font que, eh bien, tout simplement, l'égalité se concrétise et au lieu d'en parler, on l'a fait.
Jacques Toubon, merci. Je rappelle le titre de votre essai « Je dois vous dire » paru chez Stock.